Chapitre 21, États généraux du XIVe siècle. Je reviens un peu en arrière pour faire connaître le gouvernement et la situation du roi Jean avant qu'il s'engageât dans la guerre qui aboutit pour lui à la bataille de Poitiers et à la captivité en Angleterre. Vaillant et loyal chevalier, mais prince frivole, étourdi, imprévoyant, prodigue, entêté en même temps qu'impétueux, et plus inhabile encore que Philippe de Valois dans la pratique du gouvernement, Jean, après avoir à son avènement en 1351 appelé une réunion d'État sur laquelle il ne nous est resté aucun renseignement explicite, essaya pendant 4 ans de suffire seul aux périls, aux difficultés et aux exigences de la situation que lui avait léguée son père. Pendant 4 ans, pour avoir de l'argent, il falsifia les monnaies, il confisqua les biens et les créances des marchands étrangers, il cessa de payer ses dettes, il parcourut plusieurs provinces traitant avec les conseils ou les magistrats locaux pour en obtenir des subsides qu'il achetait en leur accordant de nouveaux privilèges. Il espéra, par son institution de l'ordre de l'Étoile, réchauffer le zèle chevaleresque de la noblesse. Tous ses moyens furent vains ou insuffisants. La défaite de Crécy et la perte de Calais avaient jeté le découragement dans le royaume et inspiré beaucoup de doutes sur l'issue de la guerre avec le roi d'Angleterre. La défection, la trahison même portaient le trouble dans la cour de Jean, dans ses conseils et jusque dans sa famille. Pour les déjouer, tantôt il comblait de faveur les hommes qu'il craignait, tantôt il les faisait arrêter, emprisonner, décapiter même en sa présence. Il donna sa fille Jeanne en mariage au roi de Navarre, Charles le Mauvais, et quelques mois après, Charles lui-même, chef réel ou présumé de tous les traîtres, était saisi, jeté en prison et traité avec une extrême rigueur. Malgré les supplications de sa femme, qui prenait vivement parti pour son mari contre son père. Après 4 ans ainsi consumés en vains efforts d'un pouvoir tour à tour violent ou faible pour refaire une armée, un trésor et pour acheter à tout prix la fidélité ou frapper arbitrairement la trahison, Jean fut forcé de reconnaître son impuissance et d'appeler à son aide la nation française, encore si imparfaitement formée, en convoquant à Paris pour le 30 novembre 1355 les États généraux de la langue d'Oyle, c'est-à-dire de la France septentrionale, séparée par la Dordogne et la Garonne de la langue d'Oc, qui avait son assemblée distincte. L'Auvergne appartenait à la langue d'Oyle. À coup sûr, ni cette assemblée, ni le roi qui la convoquait n'avaient une idée nette et arrêtée de ce qu'ils allaient faire l'un en face de l'autre. La royauté ne suffisait plus à son propre gouvernement et à ses propres périls, mais elle n'en persistait pas moins, en principe, dans son pouvoir à peu près sans règles et sans limites. L'Assemblée ne réclamait point pour le pays le droit de se gouverner lui-même, mais elle était fortement émue d'un sentiment patriotique et en même temps très mécontente du gouvernement du roi. Elle avait également à cœur de défendre la France contre l'Angleterre et contre les abus du pouvoir royal. Il n'y avait là aucune intention de lutte sociale, ni aucune prétention systématique de révolution politique. Un péril extrême et des maux intolérables contraignaient le roi et la nation de se rapprocher pour essayer de s'entendre et de se donner mutuellement les forces et les satisfactions dont ils avaient besoin. Le 2 décembre 1355, les trois ordres, le clergé, la noblesse et les députés des villes, se réunirent à Paris dans la grande chambre du Parlement. Pierre de la Foreste, archevêque de Rouen et chancelier de France, leur demanda au nom du roi d'aviser ensemble à lui faire une aide qui pût suffire aux frais de la guerre, et le roi offrit de faire une forte et durable monnaie. L'altération de la monnaie était le plus pressant des griefs auxquels les trois ordres sollicitaient un remède. Ils déclarèrent qu'ils étaient prêts à vivre et à mourir avec le roi et à mettre leur corps et avoir à son service. Ils demandèrent l'autorisation de délibérer ensemble, qui leur fut accordée. Jean de Craon, archevêque de Reims, Gauthier de Brienne, duc d'Athènes, et Étienne Marcel, prévôt des marchands de Paris, portaient la parole comme président chacun de son ordre. La session des États ne dura pas plus d'une semaine. Ils répondirent au roi qu'il lui ferait une aide de 50 000 hommes d'armes par an et pour les payer, ils votèrent une imposition de 500 000 livres, c'est-à-dire 5 millions de livres, qui devait être levée sur toutes gens, de tel état qu'ils fussent, gens d'église, nobles ou autres, et la gabelle ou taxe du sel par tout le royaume de France. En se séparant, les États indiquèrent d'avance deux nouvelles sessions où ils se réuniraient, l'une au mois de mars pour apprécier la suffisance de l'impôt et entendre sur ce point le rapport des 9 surintendants chargés de faire exécuter leurs décisions, l'autre au mois de novembre suivant pour examiner l'état du royaume. Ils se réunirent en effet de nouveau le 1er mars et le 8 mai 1356. L'année commençait alors à Pâques. Le 24 avril fut le premier jour de l'année 1356. J'adopte partout le nouveau style. Mais ils n'eurent pas la satisfaction de voir leur autorité généralement reconnue et leur patriotique dessein effectivement accompli. L'imposition qu'ils avaient votée, notamment la gabelle, avait rencontré de violentes résistances. Quand les nouvelles envers en Normandie, dit Froissart, le pays en fut fort émerveillé, car il n'avait point appris à payer de telles choses. Le comte d'Harcourt dit aux gens de Rouen, où il était puissant, qu'il serait bien serf et bien méchant s'il s'accordait à cette gabelle, et que, si Dieu le pouvait aider, elle ne courait jamais en son pays. Le roi de Navarre tint le même langage dans son comté d'Évreux. Sur d'autres points, le mal fut encore plus grave. Près de Paris même, à Melun, on refusa péremptoirement de payer. À Arras, le 5 mars 1356, la communauté de la ville, dit Froissart, se rebella sur les riches bourgeois et en tua 14 des plus suffisants, dont ce fut pitié et dommage, et ainsi est quand méchantes gens sont au-dessus des vaillants hommes. Toutefois, les gens d'Arras payèrent depuis, car le roi y envoya son cousin, Monseigneur Jacques de Bourbon, qui fit prendre tous ceux par lesquels la sédition avait été faite et leur fit sur la place couper les têtes. Les États généraux, à leur retour, le 1er mars 1356, reconnurent la faiblesse de leur pouvoir et l'insuffisance de leur vote précédent pour venir en aide au roi dans la guerre. Ils abolirent la gabelle et le droit sur les ventes qui avaient rencontré de telles résistances. Mais, fidèles à leur patriotisme et à leur loyauté, ils y substituèrent une taxe sur les revenus imposée sur toutes sortes de gens nobles ou bourgeois, ecclésiastiques ou laïcs, et qui devait être levée non par les hauts justiciers royaux, mais par les gens des trois États eux-mêmes. L'ordonnance du roi, en date du 12 mars 1356, qui règle l'exécution de ces diverses mesures, porte, article 10, « Il y aura dans chaque cité 3 députés, un de chaque État. Ces députés nommeront dans chaque paroisse des collecteurs qui iront dans les maisons recevoir la déclaration que les personnes qui y habiteront leur feront de leurs biens, de leur État et de leurs domestiques. Lorsqu'une déclaration paraîtra conforme à la vérité, ils s'en contenteront. Sinon, ils feront ajourner celui qui l'aura faite par devant les députés de la cité dans le district de laquelle il demeurera, et ces députés lui feront faire à ce sujet tel serment qu'ils jugeront à propos. Les collecteurs dans les villages y feront faire, en présence du curé, les serments convenables au sujet des déclarations. Si, dans les villes ou dans les villages, quelqu'un refuse de faire les serments qu'on lui demande, les collecteurs estimeront son bien sur l'opinion commune et sur la déposition de ses voisins. En retour de ce loyal et persévérant concours des États généraux, et malgré les obstacles qu'avaient rencontrés leurs votes et leurs agents, le roi Jean confirma expressément, par une ordonnance du 26 mai 1356, toutes les promesses qu'il leur avait faites et tous les engagements qu'il avait contractés envers eux par son ordonnance du 28 décembre 1355, rendue immédiatement après leur première session. Véritable ordonnance de réformation qui énumérait les divers abus royaux, administratifs, judiciaires, financiers et militaires, contre lesquels s'était élevée la clameur publique et qui réglait comment ils devraient être redressés. Après ces concessions et ces promesses mutuelles, les États généraux se retirèrent en s'ajournant au 30 novembre suivant, mais 2 mois et demi avant cette époque, le roi Jean, fier de quelques succès qu'il venait d'obtenir en Normandie et de la brillante armée chevaleresque qui lui restait, quoiqu'il en eût renvoyé les milices des communes, se porta, comme je viens de le raconter, avec une impétuosité vaniteuse, à la rencontre du prince de Galles, repoussa par des exigences insultantes les modestes propositions de retraite que lui faisait le chef de la petite armée anglaise, et perdit contre toute attente, le 19 septembre, la déplorable bataille de Poitiers. On a vu qu'il fut délaissé, avant la fin de l'action, par son fils aîné, le prince Charles, avec son corps de troupes, et qu'il resta lui-même avec son plus jeune fils, le prince Philippe, enfant de 14 ans, prisonnier de ses ennemis vainqueurs. À ces nouvelles, dit Froissart, le royaume de France fut grandement troublé et courroucé, et il y avait bien cause, car ce fut une très grande désolation et ennuyable pour toutes sortes de gens. Les sages hommes du royaume présagèrent bien que grand mot en naîtrait, car le roi, leur chef, et toute la chevalerie du royaume étaient mortes ou prises. Les chevaliers et les écuyers qui en étaient revenus en étaient à ce point haïs et blâmés des communes qu'à grand-peine entraient-ils dans les bonnes villes. Les trois fils du roi, qui étaient de retour, Charles, Louis et Jean, étaient très jeunes d'âge et de conseil, et il y avait en eux si petite ressource que nul des 10 enfants ne voulait entreprendre le gouvernement du dit royaume. L'aîné des trois, le prince Charles, âgé de 19 ans et appelé le Dauphin depuis l'accession du Dauphiné à la France, s'en chargea pourtant, malgré sa jeunesse et sa retraite peu glorieuse à Poitiers. Il prit le titre de lieutenant du roi, et à peine rentré à Paris le 29 septembre, il y convoqua pour le 15 octobre les états généraux de la langue d'Oyle qui se réunirent en effet le 17 dans la grande chambre du Parlement. Jamais on n'avait vu, dit le procès-verbal de leur réunion, point d'assemblée si nombreuse, ni composée de gens plus sages. Le haut clergé y était presque au complet. La noblesse avait trop perdu devant Poitiers pour affluer à Paris. On comptait dans l'Assemblée 400 députés des bonnes villes, parmi lesquels les documents citent spécialement ceux d'Amiens, de Tournai, de Lille, d'Arras, de Troyes, d'Auxerre et de Sens. Le nombre total des membres de l'Assemblée s'élevait à plus de 800. La session s'ouvrit par un discours du chancelier Pierre de la Forest, qui demanda aux États d'aider le Dauphin de leur conseil dans les graves et tristes conjonctures où se trouvait le royaume. Les trois ordres essayèrent d'abord de délibérer, chacun dans une salle séparée. Mais, bientôt frappés des inconvénients de leur nombre et de leur séparation, ils résolurent de choisir dans le sein de chaque ordre des commissaires qui examineraient ensemble les questions et feraient ensuite aux États réunis leurs rapports et leurs propositions. 80 commissaires furent ainsi élus et se mirent à l'œuvre. Le Dauphin désigna quelques-uns de ses officiers pour assister à leur réunion et leur fournir les renseignements dont ils auraient besoin. Dès le second jour, on fit sentir à ses officiers que les députés ne besogneraient point tant que les gens du conseil du roi seraient avec eux. Ces derniers se retirèrent, et peu de jours après, vers la fin d'octobre 1356, les commissaires firent à chacun des trois ordres un rapport sur les résultats de leur conférence. Les États réunis adoptèrent leurs propositions et firent savoir au Dauphin qu'ils désiraient l'entretenir secrètement. Charles se rendit avec quelques-uns de ses conseillers au monastère des Cordeliers où les États tenaient leur séance. Et il reçut là leur déclaration. Ils lui demandèrent de dépouiller de tous leurs offices les conseillers du roi qu'ils lui désigneraient, de les faire arrêter et de confisquer tous leurs biens. 22 hommes considérables, le chancelier, le premier président du Parlement, les maîtres d'hôtel du roi et plusieurs officiers de la maison du Dauphin lui-même, lui furent ainsi désignés. Ils étaient accusés d'avoir pris part, pour en profiter eux-mêmes, à tous les abus reprochés au gouvernement et d'avoir caché au roi la vérité des faits et la misère des peuples. Les commissaires élus par les États auraient à procéder contre eux. S'ils étaient trouvés coupables, ils seraient punis. S'ils étaient innocents, ils perdraient tout au moins leurs offices et leurs biens, à raison de leurs mauvais conseils et de leur mauvaise administration. Les chroniques du temps ne sont pas d'accord sur ces dernières exigences. Nous avons, quant aux événements de cette époque, deux témoins contemporains, tous deux abondants en détails, intelligents et animés dans leurs récits, Froissart et le dernier continuateur de la chronique latine de Guillaume de Nangis. Froissart est en général favorable aux princes et aux nobles. Le chroniqueur anonyme, au contraire, incline avec quelque passion vers le parti populaire. Probablement l'un et l'autre exagèrent souvent leurs assertions et leurs impressions. Mais à ne tenir compte que des faits incontestés, il est évident que les prétentions des États généraux, la plupart légitimes, au fond à raison du nombre, de la gravité et du retour fréquent des abus, étaient démesurées, violentes et avaient pour effet la complète suspension du cours régulier du gouvernement et de la justice. Le dauphin Charles était un jeune homme d'un esprit naturellement sain et calme, mais sans expérience, qui n'avait jusque-là vécu que dans la cour du roi son père, et que de telles exigences devaient choquer et inquiéter vivement. Il fut encore bien plus troublé quand les États demandèrent que les députés, sous le nom de réformateurs, parcourussent les provinces en réprimant les malversations des officiers royaux et que 28 délégués, choisis dans les trois ordres, 4 prélats, 12 chevaliers et 12 bourgeois, fussent constamment placés auprès du prince, avec puissance de tout faire et ordonner au royaume, comme le roi lui-même, tant pour maître et ôté officier public comme pour autre chose. C'était le gouvernement tout entier, enlevé à la couronne et remis aux mains des États. La surprise et la méfiance du dauphin furent bien plus vives encore quand les députés lui parlèrent de mettre en liberté le roi de Navarre, emprisonné par le roi Jean, et lui dire que depuis cet acte de violence, nul bien n'était venu au roi ni au royaume en raison du péché de l'emprisonnement du dit roi de Navarre. Charles le Mauvais était pourtant déjà aussi mal famé qu'il l'est resté dans l'histoire. Il avait travaillé à brouiller le dauphin avec le roi son père. Il n'y avait point de trame, point d'intrigue, soit avec les mécontents de France, soit avec le roi d'Angleterre, dans laquelle il ne fut, avec raison, soupçonné d'avoir été mêlé et d'être toujours prêt à se mêler. En présence de ses exigences et de ses pronostics, le dauphin s'efforça de gagner du temps. Il fallait, dit-il, qu'avant de répondre, il sût quelle aide les États généraux voudraient lui faire. On lui répéta la promesse de 30 000 hommes d'armes, en indiquant les diverses taxes par lesquelles on espérait pourvoir à la dépense. Mais le produit de ces taxes était si incertain que, des deux parts, on doutait de l'efficacité de la promesse. Des calculs sérieux semblaient prouver que l'aide suffirait tout au plus à l'entretien de 8 000 ou 9 000 hommes. Les États insistaient pour une prompte adhésion à leurs demandes. Le dauphin persistait dans ses lenteurs. On le menaça d'une séance publique et solennelle dans laquelle on porterait toutes les questions devant le peuple et qu'on fixa au 3 novembre. La fermentation était grande dans Paris. Le peuple se montrait disposé à soutenir à tout prix les États. Le 2 novembre, le dauphin convoqua au Louvre une réunion de ses conseillers et des principaux députés. Et là, il annonça qu'il était obligé de partir pour Metz, où il allait suivre les négociations entamées avec l'empereur Charles IV et le pape Innocent VI pour établir la paix entre la France et l'Angleterre. Il ajouta que les députés s'éclaireraient sur le réel état des faits en retournant momentanément dans leur province, d'où il ne manquerait pas de les rappeler dès qu'il aurait quelques nouvelles graves à leur apprendre en réclamant leur concours. Ce n'était pas sans de sérieux motifs que le dauphin mettait tant d'importance à gagner du temps. Quand, au mois d'octobre précédent, il avait appelé à Paris les États généraux de la Languedoc, il avait aussi convoqué à Toulouse ceux de la Languedoc. Et il apprenait, non seulement qu'il venait de voter une levée de 5 000 hommes d'armes avec un subside équivalent, mais que, pour témoigner leurs sentiments royalistes, ils avaient ordonné, pour un an, une sorte de deuil public si le roi Jean n'était pas délivré de sa captivité. Le dauphin se proposait de convoquer d'autres assemblées provinciales dont il espérait des manifestations analogues. On disait en outre que plusieurs députés, déjà partis de Paris, avaient été mal reçus dans leur ville, à Soissons, entre autres, à raison de leurs prétentions excessives et de leur langage injurieux contre tous les conseillers du roi. Sur ces flatteuses apparences, le dauphin, comme il l'avait annoncé, partit de Paris le 5 décembre 1356 pour aller trouver à Metz l'empereur Charles IV, mais il commit en partant précisément la faute qui pouvait lui nuire le plus à Paris. Manquant d'argent pour son coûteux voyage, il fit subir à la monnaie une nouvelle altération qui fut mise en pratique 5 jours après son départ. Les meneurs de Paris se saisirent avidement d'un si légitime grief à l'appui de leur réclamation. Dès le 3 novembre précédent, quand ils avaient appris le prochain départ du dauphin pour Metz et l'ajournement de leur séance, les États généraux avaient décidé que leurs remontrances et leurs demandes, résumées en 21 articles, seraient lues en assemblée générale et qu'un récit des négociations qui avaient eu lieu à ce sujet entre les États et le dauphin serait pareillement rédigé, afin que tous les députés puissent dire dans leur pays pourquoi les réponses n'avaient pas été oui. Lorsque, après le départ du dauphin, les nouvelles monnaies altérées furent mises en circulation, le peuple en fut très ému et le prévôt des marchands, Étienne Marcel, courut au Louvre pour demander au comte d'Anjou, frère et lieutenant du dauphin, le retrait de l'ordonnance. N'ayant pas obtenu de réponse, il y retourna le lendemain, escorté d'une foule d'habitants de Paris. Enfin, le troisième jour, le rassemblement fut si considérable que le jeune prince prit peur et suspendit l'exécution de l'ordonnance jusqu'au retour de son frère. Pour la première fois, Étienne Marcel s'était fait appuyer par l'émeute. Pour la première fois, la foule avait imposé ses volontés au pouvoir. À partir de ce jour, la résistance pacifique et légale se changea en une lutte violente. Rentré à Paris le 14 janvier 1357, le dauphin essaya de se ressaisir quelque autorité. Il fit dire à Marcel et aux échevins de cesser l'empêchement qu'ils avaient mis au cours de la nouvelle monnaie. C'était porter sa résistance sur le plus mauvais côté de sa cause. « Rien n'en feront, » répondit Marcel, et en quelques instants, sur les ordres du prévôt, les ouvriers quittèrent leurs travaux, les cris « aux armes » retentirent dans les rues. Les conseillers du prince furent menacés de mort. Le dauphin reconnut l'impossibilité de la lutte. À peine quelques hommes restaient à la garde du Louvre. Dès le lendemain, 20 janvier, il fit appeler Marcel et les échevins dans la grande chambre du Parlement et, cédant à peu près sur tous les points, il s'engagea à ne plus émettre de monnaie nouvelle, à écarter de son conseil les officiers qu'on lui avait désignés, à les faire même emprisonner jusqu'au retour du roi son père, qui en ferait bonne justice. Les États étaient en même temps autorisés à se réunir quand ils voudraient, de toutes lesquelles choses le prévôt des marchands requit des lettres qui lui furent octroyées, et il exigea que le dauphin mît immédiatement des sergents dans les maisons de ceux de ses conseillers qui se trouvaient encore à Paris, et qu'on procéda sans délai à l'inventaire de leurs biens pour en préparer la confiscation. Les États se réunirent le 5 février. Ce ne fut pas sans surprise qu'ils se trouvèrent moins nombreux qu'ils n'avaient été jusque-là. Les députés du duché de Bourgogne, des comtés de Flandre et d'Alençon et plusieurs nobles et bourgeois d'autres provinces ne se rendirent pas à la session. Le royaume tombait dans l'anarchie. Des bandes de pillards erraient çà et là, menaçant les personnes et ravageant les terres. Les magistrats ne pouvaient ou n'osaient plus exercer leur autorité. L'inquiétude et le dégoût gagnaient beaucoup d'honnêtes gens. Marcel et ses partisans, un peu désavoués et délaissés, sentirent vivement la nécessité et aussi la facilité de devenir tout à fait les maîtres. Ils commencèrent par rédiger une série de propositions qu'ils firent distribuer et répandre largement dans les provinces. Ils tinrent le 3 mars une séance publique. Le dauphin et ses deux frères y assistaient. Une foule nombreuse remplissait la salle. L'évêque de Laon, Robert Lecoq, l'orateur du parti, fit un long et ardent résumé de tous les griefs publics et annonça que 22 officiers du roi seraient privés à perpétuité de toute charge, que tous les officiers du royaume seraient provisoirement suspendus et que des réformateurs, choisis par les États et institués par le dauphin lui-même, parcouraient la France pour faire des enquêtes sur ces officiers et, selon leurs mérites, les rétablir dans leur charge ou les juger. En même temps, les États s'engageaient à lever 30 000 hommes d'armes qu'ils solderaient et entretiendraient eux-mêmes. Et comme le produit de l'impôt voté à cet effet était fort incertain, ils demandaient leur ajournement à la quinzaine de Pâques et deux sessions assurées dont ils seraient libres de fixer l'époque avant le 15 février de l'année suivante. C'était décréter la permanence de leur pouvoir. À toutes ces demandes, le dauphin ne fit aucune résistance. Dès le mois de mars suivant, une grande ordonnance rédigée en 61 articles énuméra tous les griefs dont on s'était plaint et en prescrivit le redressement. Une seconde ordonnance, réglant tout ce qui se rapportait à la suspension des officiers royaux, fut aussi, à ce qu'il paraît, rédigée au même moment, mais n'est point parvenue jusqu'à nous. Enfin, une grande commission fut instituée, composé de 36 membres, 12 élus par chacun des trois ordres, ces 36 personnes, dit Froissart, devaient être souvent apparées ensemble pour ordonner des besognes du royaume, et toute manière de choses se devait rapporter par ces trois états, et tous prélats, tous seigneurs, toute communauté des cités et des bonnes villes devaient obéir à ce que ces trois états ordonneraient. Leur pouvoir ainsi bien assuré en leur absence, les états s'ajournèrent au 25 avril. Le bruit de ces événements arriva à Bordeaux où, depuis sa défaite à Poitiers, le roi Jean vivait en hôte du prince de Galles plutôt qu'en prisonnier des Anglais. Au milieu des fêtes et des plaisirs auxquels il se livrait, il s'indigna d'apprendre qu'à Paris l'autorité royale était méconnue et il envoya trois de ses compagnons de captivité signifier aux Parisiens qu'il repoussait toutes les prétentions des États, qu'il ne voulait pas qu'on payât le subside voté par eux et qu'il leur interdisait de se réunir le 25 avril suivant. Cette étrange manifestation de la royauté prisonnière excita dans Paris une telle irritation populaire que le dauphin se hâta de faire sortir de la ville les trois envoyés royaux dont la vie eût pu être menacée et déclara aux 36 commissaires des États qu'on lèverait le subside et que l'Assemblée générale serait parfaitement libre de se réunir au terme qu'elle avait annoncé. Elle se réunit en effet vers la fin d'avril, mais bien moins nombreuse qu'elle ne l'avait été jusque-là et de jour en jour plus divisée. Presque tous les nobles et les ecclésiastiques s'en retiraient. Parmi les bourgeois eux-mêmes, beaucoup d'esprits modérés s'alarmaient des violences de la commission des 36 délégués qui devenait, sous la direction d'Étienne Marcel, un petit pouvoir oligarchique prenant peu à peu la place de la Grande Assemblée nationale. On se récriait dans les provinces contre l'iniquité de ses gouverneurs principaux, qui n'étaient plus que 10 ou 12. On se refusait au paiement du subside voté. Ces symptômes et la désorganisation qui éclatait dans tout le royaume firent penser au dauphin que le moment était venu, pour lui, de ressaisir le pouvoir. Vers le milieu d'août 1357, il fit venir Marcel et trois échevins, meneurs habituels de Paris, et leur déclara qu'il entendait gouverner désormais lui-même sans curateur. Il remit en même temps dans leur charge quelques-uns des officiers royaux naguère révoqués. Les 36 commissaires eurent l'air de se soumettre. Leur plus fidèle allié ecclésiastique, l'évêque de Laon, Robert Lecoq, retourna dans son diocèse. Le dauphin quitta Paris et alla voyager dans quelques provinces, s'arrêtant dans les principales villes, à Rouen, à Chartres, faisant partout avec une sagesse intelligente, quoique timide, acte de présence et de volonté, mais ne réussissant guère encore à rétablir sur sa route un peu d'ordre au nom de la royauté. Marcel et ses partisans profitèrent de son absence pour raffermir leur domination ébranlée. Ils sentaient combien il leur importait de réunir de nouveau les États, dont la présence pouvait seule rendre quelque force à leurs commissaires. Mais le dauphin seul pouvait les rappeler légalement. Ils le pressèrent vivement de revenir lui-même à Paris, lui promettant que s'il consentait à y convoquer les députés de 20 ou 30 villes, il lui fournirait l'argent dont il aurait besoin et ne parlerait plus de la destitution des officiers royaux ni de la mise en liberté du roi de Navarre. Encore jeune et confiant, quoique déjà sage et réservé, le dauphin donna dans le piège. Il revint à Paris et y convoqua pour le 7 novembre suivant les députés de 70 villes, nombre suffisant pour que leur réunion eût une apparence spécieuse d'états généraux du royaume. Une circonstance aurait dû lui inspirer quelques soupçons. En même temps que le dauphin adressait aux députés ses lettres de convocation, Marcel leur en adressa aussi lui-même, comme s'il avait eu, soit en son propre nom, soit au nom des 36 commissaires délégués, le droit de les rappeler. Mais un fait bien plus grave vint révéler au dauphin le péril dans lequel il était tombé. Et dans la nuit du 8 au 9 novembre 1357, aussitôt après la réouverture des États, le roi de Navarre, Charles le Mauvais, fut enlevé par une troupe improvisée du château d'Arleux dans le Cambrésis où il était détenu, et ses libérateurs l'emmenèrent d'abord à Amiens, puis à Paris même, où le Parti populaire l'accueillit en triomphe. Marcel et ses échevins avaient décidé et préparé dans un conseil secret ce coup de théâtre si contraire aux promesses qu'il venait de faire au dauphin. Charles le Mauvais exploita habilement sa délivrance. Le lendemain même de son arrivée à Paris, Il monta sur une estrade adossée au mur de l'abbaye Saint-Germain, et là, devant plus de 10 000 personnes, bourgeois et peuples, réunis dans le pré au clair, il prononça un long discours, semé de beaucoup de venin, dit un chroniqueur du temps. Après avoir déploré les injustices qu'il avait subies, dit-il, depuis 18 mois, il déclara qu'il vivrait et mourrait en défendant le royaume de France, donnant à entendre que, s'il voulait revendiquer la couronne, il montrerait bien par droit qu'il en était plus prochain que le roi d'Angleterre. Il était insinuant et éloquent, versé dans l'art de faire servir la vérité au succès du mensonge. Son discours émut le peuple. Le dauphin fut obligé non seulement de supporter la liberté et le triomphe de son plus dangereux ennemi, mais de se réconcilier extérieurement avec lui et de s'engager non seulement à lui rendre les châteaux confisqués à la suite de son arrestation, mais à agir envers lui comme un bon frère envers son frère. Ce furent les propres paroles dont se servit au nom du dauphin et sans lui en avoir demandé son plaisir, l'évêque de Laon, Robert Lecoq, revenu lui aussi de son diocèse à Paris au moment du rappel des États. Les conséquences de cette situation ne tardèrent pas à se manifester. Pendant que le roi de Navarre rentrait dans Paris et que le dauphin subissait la nécessité de se réconcilier avec lui, plusieurs des députés revenus naguère aux États généraux, entre autres presque tous ceux de la Champagne et de la Bourgogne, s'éloignaient de nouveau, ne voulant ni assister à la rentrée triomphale de Charles le Mauvais, ni s'associer à la responsabilité des actes qu'il prévoyait. Bientôt la lutte, ou plutôt la guerre, entre le roi de Navarre et le dauphin recommença. Plusieurs des nobles détenteurs des châteaux qui devaient être restitués à Charles le Mauvais, notamment ceux de Breteuil, de Passy-sur-Eure et de Pont-Audemer, refusèrent expressément de les lui rendre. Le dauphin fut soupçonné, probablement non sans raison, de les avoir encouragés dans leur résistance. Hors de Paris, c'était vraiment la guerre qui continuait entre les deux princes. Philippe de Navarre, frère de Charles le Mauvais, se promenait avec des bandes pillardes en Normandie, en Anjou et jusqu'à quelques lieues de Paris, déclarant qu'il n'avait pris ni voulu prendre aucune part aux arrangements pacifiques de son frère et mettant tout le pays à feu et à sang. Les paysans des campagnes ravagées affluaient dans Paris. Étienne Marcel n'avait garde de repousser l'appui que beaucoup d'entre eux lui apportaient, mais il fallait les nourrir et le trésor était vide. Les débris des États généraux, réunis le 2 janvier 1358, eurent recours eux-mêmes à l'expédient qu'ils avaient tant de fois si violemment reproché au roi et au dauphin. Ils affaiblirent notamment la monnaie en allouant le 1/5 du profit au dauphin et retenant les 4 autres 1/5 pour la défense du royaume. Ce que Marcel et ses partisans appelaient la défense du royaume, c'était les travaux de fortification autour de Paris, entrepris en octobre 1356 contre les Anglais, après la défaite de Poitiers et repris en 1358 contre le parti du dauphin français dans les provinces voisines, aussi bien que contre les brigands qui les dévastaient. Au milieu de cette fermentation militaire et populaire, le dauphin se tenait au Louvre, entouré de 2 000 hommes d'armes qu'il avait pris à sa solde, uniquement, disait-il, à raison de ses perspectives de guerre contre le Navarrois. Avant d'aller s'engager hors de Paris dans une guerre civile, il résolut de faire un effort pour regagner les Parisiens eux-mêmes à sa cause. Il fit crier dans Paris que le peuple eût à s'assembler aux Halles et il s'y rendit à cheval le 11 janvier avec 5 ou 6 de ses plus fidèles serviteurs. La foule étonnée se pressa autour de lui. Il lui adressa vivement la parole. Il voulait, dit-il, vivre et mourir avec les Parisiens. S'il assemblait ses gendarmes, ce n'était pas pour piller et grever Paris, mais pour aller contre leurs ennemis communs. S'il n'y était pas allé plus tôt, c'était parce que les gens qui avaient pris le gouvernement ne lui donnaient deniers ni mailles. Mais ils en rendraient quelques jours bon compte. Le dauphin était petit, maigre, délicat et de chétive apparence, mais il faisait en ce moment acte d'une hardiesse et d'une éloquence imprévue. La population fut émue. Marcel et ses amis sentirent qu'un coup grave venait de leur être porté. Ils se hâtèrent d'y répondre par un coup d'une autre sorte. Le bruit fut partout répandu que si Paris souffrait tant de la guerre civile, des désordres et des maux de tout genre qui l'accompagnaient, C'était aux entours du dauphin qu'il fallait s'en prendre et que ses nobles conseillers le détournaient des mesures qui sauveraient le peuple de ses misères. Le prévôt Marcel et les bourgeois de Paris tinrent conseil entre eux et décidèrent qu'il serait bon que quelques-uns de ses assistants du régent fussent retirés du milieu de ce monde. Ils prirent tous le chaperon rouge d'un côté et bleu de l'autre, qu'ils portaient comme signe de leur confédération pour la défense de la chose publique. Cela fait, ils se rassemblèrent en grand nombre le 22 février 1358, le prévôt à leur tête, et marchèrent vers le palais où logeait le duc. Cette foule le rencontra sur son chemin, rue de la Juiverie, l'avocat général Regnault d'Assy, l'un des 22 officiers royaux dénoncés par les États l'année précédente. Il fut massacré dans la boutique d'un pâtissier. Et continuant sa route, Marcel arrivait au palais, monta, suivi d'une troupe d'hommes armés, jusque dans la chambre du dauphin, qu'il requit fort aigrement, dit Froissart, d'empêcher que tant de compagnies se répandissent de côté et d'autre, gâtant et pillant le pays. Le duc répondit qu'il le ferait volontiers s'il avait de quoi le faire, mais que c'était à celui qui percevait les droits appartenant au royaume à s'acquitter de ce devoir. « Je ne sais pourquoi ni comment, ajoute Froissart, mais les paroles multiplièrent de la part de tous et très haut. « Monseigneur duc, dit soudain le prévôt, ne vous effrayez pas, nous avons quelque chose à faire ici. » Et se tournant vers ces hommes encapuchonnés, « Très cher, leur dit-il, faites ce pour quoi vous êtes venus. » Aussitôt le seigneur de Conflans, maréchal de Champagne et Robert de Clermont, maréchal de Normandie, nobles et vaillants hommes, tous deux désarmés en ce moment, furent massacrés si près du dauphin et de son lit que sa robe en fut ensanglantée. Le dauphin frémissait, ses autres officiers s'enfuyaient. « N'ayez garde, seigneur duc, lui dit Marcel, vous n'avez rien à craindre. » Il passa au dauphin son propre chaperon rouge et bleu et revêtit lui-même celui du dauphin qui était d'étoffe noire à franges d'or. Les corps des deux maréchaux furent traînés dans la cour du palais, où ils restèrent jusqu'au soir, sans que personne osât les enlever, et Marcel, avec les siens, se rendit à la maison de ville et harangua d'une fenêtre la foule amassée sur la place de Grève. « Ce qui a été fait est pour le bien et le profit du royaume, » dit-il. « Les morts étaient faux et mauvais traîtres. Nous avouons le fait et le soutiendrons, » crièrent les gens qui l'entouraient. La maison d'où Marcel parla ainsi au peuple lui appartenait à lui-même et s'appelait la maison aux piliers. Il y établit le conseil de ville qui avait tenu auparavant ses séances dans divers parloirs. Pendant un mois après ce triple assassinat commis avec cet éclat officiel, Marcel régna dans Paris en dictateur. Il écarta du conseil des 36 députés les membres sur qui il ne pouvait compter et y fit entrer ses plus affidés. Il somma le conseil ainsi modifié d'approuver le coup qui venait d'être frappé et les députés, les uns par conviction, les autres par doute, c'est-à-dire par crainte, répondirent qu'ils croyaient que ce qui avait été fait avait eu bonne et juste cause. Le roi de Navarre fut rappelé de Mantes à Paris et le dauphin fut contraint de lui assigner au nom du roi, en dédommagement de ses pertes, 10 000 livres de rente sur des fonds de terre en Languedoc. Telle était la condition du jeune prince que, presque chaque jour, il subissait l'obligation de dîner avec son plus dangereux et plus hypocrite ennemi. Un gentilhomme dévoué au dauphin, qu'on appelait déjà le régent, Philippe de Repenti, eut la tête coupée le 19 mars 1358 sur la place des Halles pour avoir tenté avec quelques hardis compagnons de mettre le régent hors de la puissance et des mains des gens de Paris. 6 jours après, pourtant, le 25 mars, le dauphin réussit à s'évader et se rendit d'abord à Senlis, puis à Provins, où il trouva les États de Champagne empressés à l'accueillir. Marcel envoya sur le champ à Provins 2 députés chargés d'engager les 3 ordres de Champagne, à être avec ceux de Paris et à ne point s'émerveiller de ce qui avait été fait. Avant de répondre, les membres des États se retirèrent dans un jardin pour parler ensemble et firent prier le régent de venir les trouver. « Monseigneur, lui dit au nom de la noblesse le comte de Brenne, avez-vous jamais reçu quelque mal ou vilenie de messire de Conflans, maréchal de Champagne, pour qu'on le dût mettre à mort comme ont fait les Parisiens ?»« Le prince répondit qu'il tenait et croyait fermement que ledit maréchal et Robert de Clermont l'avaient bien et loyalement servi et conseillé. « Monseigneur, reprit le comte de Brenne, nous, Champenois, qui sommes ici, vous remercions de ce que vous venez de dire et souhaitons que vous fassiez bonne justice de ceux qui ont mis notre ami à mort sans cause. » Et ils s'engagèrent à le soutenir de leur corps et de leurs biens pour le châtiment des auteurs de l'attentat. Confiant dans cette manifestation et cette promesse, le dauphin convoqua à Compiègne pour le 4 mai 1358 non plus seulement les États de Champagne, mais les États généraux tout entiers qui, en se séparant à la fin de leur dernière session, s'étaient ajournés eux-mêmes au 1er mai suivant. Je reproduirai ici textuellement le récit de cette nouvelle session et des événements qu'elle détermina, tel que nous l'a transmis le dernier continuateur de la chronique de Guillaume de Nangis, de tous les chroniqueurs de cette époque le plus favorable à Étienne Marcel et au Parti populaire dans Paris. Tous les députés, spécialement les amis des nobles massacrés, conseillèrent d'un cœur et d'une âme au seigneur Charles, duc de Normandie, de faire frapper à mort les homicides, et s'ils ne le pouvaient pas à cause du nombre de leurs défenseurs, ils le pressèrent d'assiéger vigoureusement la cité de Paris, soit par les armes, soit en y interdisant l'entrée des vivres, de telle sorte qu'elle comprit et sentit avec certitude qu'on voulait la mort du prévôt des marchands et de ses complices. Le dit prévôt et ceux qui, après le départ du régent, avaient pris le gouvernement de la cité, comprirent bien cette intention et ils supplièrent alors l'Université des études à Paris d'envoyer des députés au dit seigneur régent pour le conjurer humblement, en leur nom et au nom de toute la ville, d'écarter de son cœur la colère qu'il avait conçue contre leurs concitoyens, offrant et promettant d'ailleurs une réparation convenable de l'offense, pourvu que la vie des personnes fût sauve. L'université, préoccupée du bien de la cité, envoya plusieurs députés considérables pour traiter de cette affaire. Ils furent reçus par le seigneur duc Charles et les autres seigneurs avec grande bonté. Ils rapportèrent à Paris qu'on demandait à Compiègne que 10 ou 12 ou même seulement 5 ou 6 des hommes soupçonnés du crime commis naguère dans Paris fussent envoyés à Compiègne où l'on n'avait pas dessein de les mettre à mort. Si cela se faisait, le duc régent retournerait à son ancienne et intime amitié pour les Parisiens. Mais le prévôt Marcel et ses complices, qui craignaient pour eux-mêmes, ne crurent pas que, s'ils tombaient au pouvoir du seigneur duc, ils pussent échapper à une mort terrible, et ils ne voulurent pas encourir un tel péril. Prenant donc une résolution audacieuse, ils voulurent être traités comme tous les autres citoyens. Et ils envoyèrent à cet effet plusieurs députations au seigneur régent, soit à Compiègne, soit à Meaux, où ils se transportaient quelquefois. Mais ils n'en reçurent aucune réponse bienveillante, et bien plutôt des paroles âpres et menaçantes. Saisis de crainte alors pour leur cité, dans laquelle le seigneur régent et ses nobles compagnons aspiraient si ardemment à rentrer, et voulant la mettre à l'abri du péril qui la menaçait, ils commencèrent à s'y fortifier, à réparer les murs, à approfondir les fossés, à construire du côté de l'Orillon de nouveaux remparts et à élever des barrières à toutes les portes. Comme il manquait d'un capitaine, ils envoyèrent au roi de Navarre, Charles le Mauvais, qui était alors en Normandie et qu'il savait brouiller de nouveau avec le régent. Ils lui demandèrent de venir à Paris avec une forte troupe d'hommes d'armes pour y être leur capitaine et leur défenseur contre tous leurs adversaires, excepté contre le seigneur Jean, roi de France, prisonnier à l'Angleterre. Le roi de Navarre, avec tous ses hommes, fut reçu solennellement le 15 juin par les Parisiens, à la grande indignation du prince régent, de ses amis et de beaucoup d'autres. Les nobles commencèrent alors à s'approcher de Paris et à chevaucher dans les champs des environs, prêts à combattre si, de Paris, on sortait pour les attaquer. Un certain jour, les assiégeants vinrent près du pont de Charenton, comme pour attirer au combat le roi de Navarre et les Parisiens. Le roi de Navarre sortit en armes avec ses hommes et, s'approchant des assiégeants, il eut avec eux de longs entretiens sans combat et rentra ensuite dans Paris. À cette vue, les Parisiens soupçonnèrent que ce roi, qui était lui-même un noble, conspirait avec les assiégeants et préparait quelques coups secrets au détriment de Paris. Ils le prirent, lui et les siens, en méfiance et le dépouillèrent de sa charge de capitaine. Il sortit de Paris fort irrité avec les siens. Les Anglais surtout, qu'il avait amenés avec lui, injurièrent quelques Parisiens, d'où il résulta qu'avant qu'ils fussent hors de la ville, plusieurs d'entre eux furent massacrés par les gens de Paris, qui se tinrent ensuite enfermés dans leurs murailles, gardant soigneusement leurs portes pendant le jour et faisant pendant la nuit de grandes patrouilles sur leurs remparts. Pendant que dans l'intérieur de Paris, où il régnait en maître, Marcel était en proie pour son propre compte, comme pour celui de sa ville assiégée, à ses anxiétés et à ses périls, un événement éclata au dehors qui semblait lui ouvrir la perspective d'un puissant secours, peut-être d'une victoire décisive. Dans plusieurs provinces, les paysans, dont la condition déjà triste et dure sous le régime féodal était encore fort aggravée par les violences et les désordres de la guerre, ne trouvant aucune protection dans leurs seigneurs et souvent même opprimés par eux comme par leurs ennemis, recoururent à l'insurrection pour échapper aux maux qui venaient les frapper tous les jours et de toutes parts. Ils supportaient et supporteraient tout, disait-on. On les appelait Jacques Bonhomme. Ils donnèrent à cette insulte un terrible démenti. Je reprends le texte du dernier continuateur de Guillaume de Nangis, le moins déclamatoire et le moins confus des chroniqueurs de cette époque. Dans cette même année 1358, dit-il, en été, les paysans des environs de Saint-Loup, de Serran et de Clermont dans le diocèse de Beauvais prirent les armes contre les nobles de France. Se réunissant en grand nombre, ils se donnèrent pour chef un certain paysan nommé Guillaume Carle, plus intelligent que d'autres et marchant en bande sous leur drapeau. Ils errèrent dans le pays, tuant et massacrant tous les nobles qu'ils rencontraient, même leurs propres seigneurs. Non content de cela, ils démolissaient les maisons et les châteaux des nobles, et ce qui est plus lamentable encore, ils mettaient atrocement à mort les nobles dames et les petits-enfants qui leur tombaient sous la main, et ils se promenaient ensuite, eux et leurs femmes, parés des vêtements qu'ils leur avaient enlevés. Le nombre des hommes ainsi soulevés allait jusqu'à 5 000, et le soulèvement se porta jusqu'aux environs de Paris. Ils avaient commencé par besoin et amour de la justice, car leur seigneur les opprimait au lieu de les défendre, mais ils en vinrent bientôt aux actes les plus odieux et les plus criminels. Ils prirent et détruisirent de fond en comble le château fort d'Émenonville, où ils égorgèrent une foule d'hommes et de dames nobles qui s'y étaient réfugiés. Pendant quelque temps, les nobles ne marchaient plus comme auparavant. Aucun d'eux n'osait se montrer en dehors des lieux fortifiés. La jacquerie était devenu un accès de fureur démagogique, et les Jacques répandus hors de leur chaumière étaient la terreur des châteaux. Marcel avait-il provoqué cette sanglante insurrection? On est tenté de le présumer. Plusieurs de ses contemporains le disent, et le Dauphin lui-même écrivait le 30 août 1359 au comte de Savoie que l'un des plus coupables actes de Marcel et de ses partisans était d'avoir ému les gens du plat pays de France, du Beauvaisis, de Champagne et d'autres lieux contre les nobles du dit royaume, d'où tant de maux sont provenus que nul ne les doit ou peut penser. Ce qui est certain, c'est que l'insurrection, une fois soulevée, Marcel s'empressa d'en profiter et qu'il l'encouragea, la soutint même sur plusieurs points. Il envoya entre autres de Paris un corps de 300 hommes à l'appui des paysans qui assiégeaient le château d'Ermenonville. C'est le malheur mérité des réformateurs, devenus par entraînement des révolutionnaires, qu'ils deviennent bientôt les complices de maux ou de crimes que leur premier dessein et leur propre intérêt leur prescrivaient de prévenir ou de réprimer. La réaction contre la jacquerie fut prompte et déplorablement sanguinaire. Les nobles, le dauphin, le roi de Navarre, prince et noble en même temps que pervers, s'unirent contre les Jacques, d'autant plus désordonnés qu'ils étaient devenus plus nombreux et se croyaient plus vainqueurs. L'ascendant des maîtres sur les rebelles fut bientôt irrésistible. À Meaux, dont les Jacques s'étaient emparés, ils furent surpris et massacrés au nombre de 7 000, dit-on, dans la ville incendiée. Dans le Beauvaisis, le roi de Navarre, après avoir eu l'air de traiter avec leur chef Guillaume Carle ou Calais, se le fit livrer et le fit décapiter en le couronnant, dit une chronique, d'un trépied de fer rouge. Puis il se porta sur un camp de Jacques réuni près de Montdidier, en tua 3 000 et dispersa le reste. Ces chiffres sont probablement fort exagérés, comme il arrive presque toujours dans de tels récits, mais le continuateur de Guillaume de Nangis, si justement sévère pour les violences et les barbaries des paysans insurgés, ne l'est pas moins pour celle de leur vainqueur. Les nobles de France, dit-il, firent alors de tels ravages dans le pays de Meaux qu'il n'était pas nécessaire que les Anglais vinssent pour détruire notre patrie. Ces ennemis mortels du royaume n'auraient pas pu faire ce que firent les nobles de l'intérieur. Marcel comprit dès lors que sa cause était perdue, et il ne songea plus qu'à se sauver à tout prix, lui et les siens, car il pensait, dit Froissart, qu'il leur valait mieux oxyre qu'être oxy. Quoiqu'il eût plus d'une fois éprouvé la déloyauté du roi de Navarre, il traita de nouveau avec lui, espérant s'en servir comme d'un intermédiaire auprès du dauphin, pour en obtenir soit une paix acceptable, soit des garanties pour sa propre sûreté en cas d'extrême péril. Le roi de Navarre se prêta volontiers à ces ouvertures. Il négociait sans scrupule avec l'un et l'autre parti, se promettant de les faire servir l'un ou l'autre au succès de ses propres desseins. Marcel reconnut sans peine que le vrai dessein du roi de Navarre était d'écarter les Valois avec les Plantagenets et de devenir roi de France lui-même, comme descendant lui aussi de Saint-Louis, quoiqu'à un degré plus éloigné. L'entente se renoua entre ces deux hommes, comme elle peut se faire entre deux intérêts personnels, divers au fond, mais qui peuvent céder momentanément l'un l'autre. Marcel admit dans Paris, sous le prétexte de la défense contre les assiégeants, un assez grand nombre d'Anglais soudoyés par le roi de Navarre. Des rixes s'élevèrent bientôt entre les Parisiens et ces étrangers impopulaires. Le 21 juillet 1358, dans l'une de ces rixes, 24 Anglais furent massacrés par le peuple, et 400 autres, dit-on, étaient en péril de subir le même sort lorsque Marcel survint et réussit à les sauver en les faisant incarcérer au Louvre. La querelle s'échauffa et s'étendit. Le peuple de Paris alla attaquer d'autres soudoyés du roi de Navarre, Anglais la plupart qui occupaient Saint-Denis et Saint-Cloud. Les Parisiens furent battus. Le roi de Navarre se retira à Saint-Denis. Le 27 juillet, Marcel résolut hardiment de mettre en liberté et de lui renvoyer les 400 Anglais prisonniers au Louvre. Il les en fit sortir, en effet, et les escorta lui-même jusqu'à la porte Saint-Honoré, au milieu d'une foule immobile, quoique irritée. Quelques-uns des satellites de Marcel qui formaient l'escorte criaient en cheminant « A-t-on quelque chose à dire contre la mise en liberté de ces prisonniers ?» Les Parisiens se souvenaient de leur échec récent. Pas une voix ne s'éleva. Si en était le peuple de Paris fortement ému en son cœur contre le prévôt des marchands, dit une chronique contemporaine, mais il n'y avait homme qui osa commencer la riote. La situation de Marcel devint de jour en jour plus critique. Le dauphin, campé avec son armée autour de Paris, y entretenait des relations secrètes mais très actives. Un parti nombreux et déjà populaire s'y formait en sa faveur. Des hommes importants, naguère les compagnons de Marcel, se prononçaient contre lui. Jean Maillard, l'un des quatre capitaines élus de la milice municipale, était le plus vigilant. Marcel, à bout de voix, fit offrir au roi de Navarre de lui livrer Paris dans la nuit du 31 juillet au 1er août. Tout fut préparé pour ce dessein. Dans la journée du 31 juillet, Marcel voulut changer les gardiens de la porte Saint-Denis. Maillard s'y opposa. Courut à l'hôtel de ville, y prit la bannière de France, monta à cheval et se promena dans la ville en criant « Montjoie Saint-Denis, au roi et au duc !» C'était le mot de ralliement des partisans du dauphin. La journée finit dans un grand tumulte populaire. Vers 11 h du soir, Marcel, suivi de ses gens armés de pied en cap, se dirigea vers la porte Saint-Antoine, tenant dans ses mains, dit-on, les clés de la ville. Comme il était là, attendant la venue des hommes du roi de Navarre, Maillard arriva, avec torches et falots et un nombreux rassemblement. Il alla droit au prévôt et lui dit « Étienne, Étienne, que faites-vous ici à cette heure ?»« Jean, de quoi vous mêlez-vous? Je suis ici pour prendre garde de la ville dont j'ai le gouvernement. »« Par Dieu, repartit Maillard, il n'en va pas ainsi. Vous n'êtes ici à cette heure pour rien de bon, et je vous le montre, dit-il en s'adressant à ses compagnons. « Voyez, il tient les clés des portes en ses mains pour trahir la ville. »« Vous mentez, Jean, » dit Marcel. « Par Dieu, traître, c'est vous qui mentez, » reprit Maillard. « à mort, tout homme de son côté. » Et il leva sa hache d'armes sur Marcel. Un ami du prévôt, Philippe Giffard, se jeta au-devant de lui et le couvrit un moment de son corps. Mais la lutte définitive était engagée. Maillard frappa Marcel de sa hache. Il tomba, percé de plusieurs coups. Six de ses compagnons eurent le même sort. L'évêque de Laon, Robert Lecoq, se sauva sous l'habit d'un cordelier. Les compagnons de Maillard se partagèrent en plusieurs bandes et se répandirent dans la ville, portant partout la nouvelle et assommant ou arrêtant les partisans de Marcel. Le lendemain matin, 1er août 1358, Jean Maillard fit rassembler la plus grande partie de la communauté de Paris au marché des Halles, expliqua pour quelles raisons il avait auxilié le prévôt des marchands et en quel forfait il l'avait trouvé, et recorda bellement et sagement comment, en cette propre nuit, la cité de Paris devait être courue et détruite si Dieu, par sa grâce, n'y avait mis remède. Quand le peuple qui présent était, ouit ces nouvelles, il fut moult ébahi du péril où il avait été, et la plupart louaient Dieu à jointes mains de la grâce qu'il leur avait faite. Le cadavre d'Étienne Marcel fut dépouillé et livré tout nu au regard public devant Sainte Catherine du Val des Écoliers, la même où, par son ordre, les corps des deux maréchaux Robert de Clermont et Jean de Conflans avaient été exposés 5 mois auparavant. On le jeta ensuite à la rivière, en présence d'une grande multitude, puis furent jugés à mort par le Conseil des Prud'hommes de Paris, mais exécutés en divers tourments de mort plusieurs qui avaient été de la secte du prévôt des marchands, le régent ayant déclaré qu'il ne rentrerait dans Paris que lorsque ses traîtres auraient cessé de vivre. Ainsi périt, après 3 ans à peine de vie politique et par la main de ses anciens amis, un homme d'une capacité et d'une énergie rares, qui, à son début, n'avait formé que de patriotiques desseins et s'était promis sans doute une meilleure destinée. Quand, en décembre 1355, sur l'appel d'un roi déplorablement inhabile et faible, Marcel entra, simple bourgeois de Paris et homme nouveau dans l'Assemblée des États généraux de France, pouvoir nouveau elle-même, il fut justement frappé des vices et des abus du gouvernement royal, des maux et des périls qu'ils attiraient sur la France et de la nécessité d'y porter remède. Mais, à côté de cette honnête et légitime conviction, il tomba dans une erreur capitale. Il tenta d'abolir, pour un temps du moins, le gouvernement qu'il voulait réformer et de substituer à la royauté et à ses agents le peuple et ses élus. Depuis plus de 3 siècles, la royauté était le pouvoir public qui s'était formé et développé naturellement en France, en secondant le travail naturel de la formation et du développement de la nation française. Mais ce travail était encore très peu avancé, et la nation naissante était hors d'état de prendre place en tête de son gouvernement. Étienne Marcel entreprit de faire, par les États généraux du XIVe siècle, ce qu'au XIXe, et après tous les progrès de la nation française, nous n'avons pas encore réussi à accomplir, le gouvernement du pays par le pays lui-même. Marchant d'excès en excès, et d'échec en échec dans son impossible entreprise, Marcel se trouva bientôt engagé dans une lutte ardente contre l'aristocratie féodale, encore si puissante alors, en même temps que contre la royauté. Réduit à n'avoir pour force dans cette lutte qu'une démocratie municipale incohérente, inexpérimentée, très divisée dans ses propres rangs, et une insurrection furieuse dans les campagnes, il tomba rapidement dans l'égoïste et criminelle situation d'un homme préoccupé surtout de son propre salut. Il le chercha dans une indigne alliance avec le plus pervers des ambitieux de son temps, et il eut livré sa propre cité comme la France au roi de Navarre et aux Anglais, si un autre bourgeois de Paris, Jean Maillard, ne l'eût arrêté et mis à mort au moment où le patriote des États généraux de 1355 allait devenir traître envers sa patrie. 13 ans à peine auparavant, quand Étienne Marcel était déjà un homme fait, le grand bourgeois flamand Jacques d'Arteveld avait tenté pour les libertés de son pays une entreprise analogue, et après une série d'abord de grandes actions, puis de fautes analogues à celles de Marcel, il était tombé dans le même abîme, et il avait péri de la main de ses concitoyens, au moment où il travaillait à faire passer la Flandre, sa patrie, sous un maître étranger, le prince de Galles, fils du roi d'Angleterre, Édouard III. De toutes les séductions politiques, la démocratique est la plus tentante, mais aussi la plus corruptrice et la plus trompeuse, quand, au lieu de garantir dans l'intérêt de la démocratie les libertés publiques, on prétend la mettre en possession directe du pouvoir suprême et l'exercer soi-même avec son seul appui. Un seul résultat important fut acquis à la France par les États généraux du XIVe siècle. Le principe du droit de la nation à intervenir dans ses affaires et à décider de son gouvernement perverti ou incapable d'y suffire lui-même. Jusque-là, dans le XIIIe siècle et au début du XIVe siècle, les États généraux n'avaient guère été qu'un expédient momentané employé par la royauté elle-même pour résoudre une question spéciale ou pour sortir d'un grave embarras. À partir du roi Jean, les États généraux devinrent l'un des principes du droit national, principe qui ne disparut point quand même il restait sans application et dont le prestige survivait même à ses revers. La foi et l'espérance tiennent une grande place dans la vie des peuples comme dans celle des individus. Nés vraiment en 1355, les États généraux de la France se sont retrouvés vivants en 1789. J'espère qu'après une si longue épreuve, leurs échecs et leurs mécomptes ne leur seront pas non plus mortels de nos jours.